Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h06 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi avec Pascal Dupraz, Simon Dutin, Fred Veil ce matin.
Simon Dutin, non, mais pas
je rigole parce que.
On peut couper le micro pendant la pub, mais on peut pas couper la parole de Fred Veil, il est pénible.
Les
il est encore plus
continue.
Pénible pendant la pub.
Vous êtes insupportable, hein. Il n'y a même pas un moment de répit avec vous.
C'est faux, tu nous as regardé, t'as fait qu'il popcorn là, c'est faux.
Les grandes gueules du sport à retrouver dès maintenant en podcast. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre débat sur le Tour de France, débat passionné et passionnant. On reparle d'ailleurs de la grande boucle dans une heure avec Jérôme Pinault, puisqu'on a eu encore une semaine marquée par de nombreuses chutes, parfois aux graves conséquences. Faut-il incriminer les coureurs? L'avis des GG, ça sera à 11h. Et puis la punchline aussi, signée Novak Djokovic ce matin dans 30 minutes. Les mots très forts que vous entendrez du Serbe après sa défaite face à Yannick Sinner en demi-finale de Wimbledon. Dans 45 minutes, vous le savez, c'est un moment important. Les grandes gueules qui prennent les commandes de l'émission, les grandes gueules contre-attaque. Et c'est le moment, les GG, de nous proposer un débat à retrouver sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous pouvez déjà aller voter, mais présentez-nous rapidement et brièvement, s'il vous plaît, les débats proposés.
C'est pour toi, Simon.
On commence par toi, Fred. Tiens.
Mais comme tout le monde le sait, Oklahoma City a gagné la NBA il y a 3 semaines à peu près. Ouais. Mais il faut se rendre compte que le deuxième joueur de cette équipe, Jalen Williams, a reçu 28 injections dans sa main pour qu'il soit à même de jouer. Donc moi j'avais envie de poser une question qui va élever un petit peu le débat. On va pas parler que de sport, on va parler de philosophie presque.
Quasiment.
Peut-on tout faire pour gagner?
Ah ouais, de philosophie.
Simon, ton débat.
Ah, je pense que Spinoza s'en retourne déjà dans sa tombe. Moi je vais vous parler de Formule 1. On a appris cette semaine que Christian Horner, l'historique patron de l'écurie Red Bull, se faisait vider. Voilà, merci pour tout. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est le signe que Max Verstappen va quitter Red Bull à la fin de la saison, et donc Horner passe déjà à la caisse, il paye déjà, est-ce qu'il serait vraiment une faute? Ou est-ce au contraire le signe que on a envie de tout faire pour retenir Verstappen, et du coup on lui a dit, écoute, on vire Christian Horner, et comme ça tu restes à la maison. J'ai envie de demander leur avis, leur intuition à Fred et Pascal.
Spinoza n'est pas un joueur.
S'élève moins quand même.
Spinoza n'est pas un joueur de foot italien.
Philosophiquement, on s'intéresse moins à des choses importantes.
Pascal Dupraz, ton débat.
On va pas faire de philosophie, mais on va parler de choses intéressantes. On va parler de football. Donc l'OL vient de sauver sa place grâce à la DNCG et grâce à ses nouveaux dirigeants, semble-t-il, en Ligue 1. Donc, moi, j'ai envie de poser la question suivante, mais avec quelle ambition pour la saison 25-26? Voilà de quoi j'aimerais que l'on parle ensemble et interroger mes collègues à ce sujet.
Donc, pour résumer, c'est soit vénal, soit inintéressant, soit philosophique.
Et ben, on va voir ce que vont choisir les auditeurs des grandes gueules du sport. J'ai hâte des résultats. Allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous avez 45 minutes pour voter. Et chaque vote peut faire basculer, évidemment, la décision. Mais d'abord, on va d'abord savoir qui est le plus fort. Juste avant, je voulais aller voir Clément Brossard, mais on parle en même temps dans le casque. Merci Maxime. Clément Brossard, parce que c'est reparti entre la Nouvelle-Zélande et la France.
Oui, n'hésite pas à venir me voir François, il n'y a pas de souci. 29-3 pour la Nouvelle-Zélande. On est reparti depuis 3 minutes dans cette seconde période. 4 essais à 0, mangé à la conquête, éteint en touche, notamment première période. Il y a eu des entrées. Régis Montagne vient de remplacer à l'instant Georges-Henri Colombe. On aura aussi la première sélection de Bastien Vernetailleffert dans quelques instants. Il va falloir réagir pour ces bleus-là, même si c'est compliqué parce que les Blacks ont un autre visage par rapport à la semaine dernière et cette défaite sur le fil des bleus. 29-3, 4 minutes de jeu dans cette seconde période.
Merci Clément. Allez, c'est le moment de savoir qui est le plus fort.
RMC, le bras de fer GG.
Attention à Dembélé qui va être projeté par Courtois, mais le but derrière de Fabian Ruiz.
Il doit avoir des conditions sine qua non.
Dembélé qui va se présenter seul face à Courtois, ça fait 2-0.
À chaque fois, en renard, Ousmane Dembélé qui vient récupérer ce ballon, c'est sa marque de fabrique. On le sait, il a faim de ballon, il a faim de pressing pour aller récupérer ce genre de situation dangereuse. Et une nouvelle fois, ça fait mouche.
Le numéro 10 parisien qui transmet à droite à Achraf Hakimi. Le Paris Saint-Germain mène 1-0. Le Paris Saint-Germain est à 9 contre 11. Et le Paris Saint-Germain touche la barre à Hakimi qui rentre dans la surface. Dembélé, le 2-0. Et tout le peuple parisien qui se réunit autour de son possible ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé.
Les joueurs qui a fait tout ça, c'est Ousmane Dembélé.
Je plus si je suis gauche ou droite, je tire des deux pieds.
Demain, le PSG affronte Chelsea en finale de Coupe du Monde des Clubs, une compétition qui va sans doute avoir un impact sur la course au Ballon d'Or, décernée le 22 septembre prochain. En tout cas, les Parisiens brillent lors de cette compétition, et notamment Dembélé, qui a inscrit un but face au Real Madrid en demi-finale, qui a marqué également contre le Bayern. Alors, est-ce que Dembélé a enterré le débat du Ballon d'Or? Dans la team, oui. Il me semble que nous avons Simon Dutin et Pascal Duprat, encore réunis tous les deux.
C'est exact, pour ma part.
Incroyable. Oui. Fred Weiss est donc seul, face à la meute. Non, il n'a pas enterré le débat du Ballon d'Or. Tu vas bientôt démarrer, puisque pour l'instant, le sondage DGG donne un avantage assez large au oui, il a enterré le débat du Ballon d'Or d'Embélé, 60% contre 40%. Mais juste avant de vous entendre et d'entendre vos arguments, on accueille Aurélien Tirsin, nos envoyés spéciaux aux États-Unis. Salut Aurélien.
Salut François, salut DGG. Salut Aurélien.
Est-ce qu'au PSG, on vote aussi Dembélé Ballon d'Or?
Oui, parce que Ousmane Dembélé avait tout à gagner dans cette Coupe du Monde des clubs pour asseoir encore plus son statut. Le pari est réussi en deux matchs de prestige, un but en quart de finale contre le Bayern Munich alors que le PSG était à 9 contre 11 et contre le Real Madrid en demi-finale. C'était l'âme de l'équipe, un but, une passe décisive. Pour son coach Luis Enrique, il n'y a aucun débat possible.
Sur la situation des Ballons d'Or, je dois dire que pour moi, il doit avoir des conditions sine qua non, non seulement de faire des buts et des passes décisives, mais aussi de faire gagner à ton équipe des trophées. Les joueurs qui ont fait tout ça, c'est Ousmane Dembélé.
Mais accumuler les trophées, tous les Parisiens l'ont fait. Achraf Hakimi, évidemment, qui postule au Ballon d'Or. Fabien Ruiz aussi, champion d'Europe en titre avec l'Espagne en plus. Ou Désiré Doué, double buteur en finale de Ligue des Champions.
Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui méritent le Ballon d'Or. Ousmane est un des prétendants. Voilà, aujourd'hui, de l'avoir dans l'équipe, c'est magnifique. Il nous apporte beaucoup. On a vu sa performance encore contre le Real de Madrid. À chaque match, il répond présent. Chaque match, il nous aide énormément, mais c'est pas le seul. Tous les joueurs de l'effectif sont aujourd'hui très, très bons. Et c'est cette cohésion, cette force d'équipe qui nous amènera à gagner dimanche.
Le groupe reste donc uni et solidaire, avec tout de même cette tête qui dépasse Ousmane Dembélé. 35 buts, 16 passes décisives cette saison. Le Paris Saint-Germain roule à fond pour son buteur depuis plusieurs semaines. Le président Nasser Al Khelaifi résume sa façon de penser.
Ousmane, la saison l'a fait. C'est magnifique, c'est aucun doute. Il ne gagne pas la Ballon d'Or. S'il ne gagne pas, c'est le problème de Ballon d'Or.
Et ce qui est fou, c'est qu'Ousmane Dembélé Ballon d'Or, c'était une illusion très lointaine en janvier dernier. S'il soulève demain la Coupe du Monde des clubs avec le Paris Saint-Germain, ça deviendra une évidence. Après avoir déjà gagné, on le rappelle, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et bien sûr la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG.
Merci beaucoup Aurélien, on te retrouvera demain aux commentaires de cette finale PSG-Chelsea. Le débat, est-ce que Dembélé a enterré justement le débat du Ballon d'Or? Oui ou non, 32-16 pour nous rejoindre. Petit changement d'équipe, Pascal Duprat va faire équipe avec Fred Weiss, hein. C'est bien ça Pascal, toi tu
oui,
as dit
oui,
non
oui, j'avais dit non, oui.
Eh ben vas-y, on t'écoute. Alors, pourquoi tu dis non puisque
oui, c'est ça bien, ça, Fred. Heureusement que Pascal.
Pascal, tu es avec moi et déjà, je comprends rien.
Vous êtes en retard, 40% seulement.
Fred, il choisit tout de suite l'agressivité. Moi, je vais donner juste trois raisons. La première, elle est fondamentale, c'est qu'il y a des adversaires, et notamment un adversaire crédible, c'est Yamal. Par rapport à tout ce qu'il a fait avec le Barça cette année, même si ce n'est qu'au niveau du championnat espagnol et des compétitions espagnoles, puisqu'ils ont réalisé un triplé. Mais ce joueur, il est extravagant et extraordinaire, donc il a tapé dans l'œil des journalistes. La deuxième raison, c'est qu'il reste un match à disputer, et c'est la finale de la Coupe du Monde des clubs. Si le Paris Saint-Germain l'emporte, je pense que alors ça sera fait pour Dembélé. Mais là, c'est un raisonnement d'amateur et on va dire de connaisseur, petit connaisseur du football que je suis. Maintenant, la troisième raison, c'est que ce sont des journalistes qui votent. Et les journalistes ont une vue toute particulière du football. Attention, je dis ça avec beaucoup de respect.
Oui, fais attention.
Une analyse qui est complètement différente de celle des initiés du football.
En
donc
gros,
ces trois
c'est
raisons
nul, les journalistes.
Non, j'ai dit ça nous apporte à nous qui sommes les spécialistes du foot d'être quelquefois vus d'un autre angle, celui des journalistes. Et donc tout ceci, ces raisons-là, encore à plus forte raison parce que les journalistes, ce sont des journalistes du monde entier qui vont voter. Donc c'est pour cette raison que je me dis attention, attendons le match de demain pour dire que c'est fait.
Tu veux dire que les journalistes connaissent moins le foot évidemment que ceux qui le pratiquent, c'est ça, parce que attention.
Non, ils le voient d'une manière différente, c'est tout ce que j'ai dit.
Oui,
mais... Non, n'interprétez pas ce que je dis.
Si, on est obligé parfois, mais attention, parce qu'à l'époque aussi où il n'y avait que les joueurs qui votaient, où le poids des votes des
ça
joueurs.
Avait lieu.
Bah oui, mais ils votaient pour les copains.
Surprises.
Ils votaient pour les copains.
Exact.
Donc c'était pas forcément mieux. Hein. C'était pas forcément mieux.
J'ai pas dit que c'était mieux, j'ai dit que le regard est différent.
Voilà. Simon.
Donc Fred, tu peux essayer de pas trop me fracasser.
Mais je suis d'accord avec toi, Pascal, je suis toujours d'accord avec toi.
Alors Fred va venir à ton secours ou pas, d'ailleurs il a peut-être pas besoin, mais d'abord Simon, qui est le partisan de oui, Dembélé a enterré le débat là.
Qu'avant la compétition, j'étais le premier à dire que c'était pas encore joué, que Vitinha pouvait encore y croire, que Hakimi pouvait encore y croire, mais force est de constater que cette compétition, elle va compter, il a marqué, il a été décisif face au Bayern.
Pourquoi Hakimi pourrait pas y croire?
Parce que encore une fois, on revient à la France.
Est-ce que ça serait scandaleux qu'Hakimi ait le ballon d'or?
Il a raison.
Ouais, mais si c'est un Parisien, ça ne peut être que Dembélé quand même.
Moi, je me pose vraiment la question. Je sais pas. C'est justement la problématique de diluer les votes.
T'es journaliste.
Non, mais justement, c'est un défenseur. Ça se fait peu. Hakimi, il a fait une saison fantastique aussi. Alors oui, peut-être qu'il a une petite tête d'avance Dembélé. Je suis d'accord. Mais il est Parisien aussi.
Il a quand même marqué 35 buts.
Ouais, mais Hakimi, il a fait une défense incroyable. Il a été partout.
Il a mis des buts quand il fallait. Ligue des Champions.
Je suis désolé, moi je trouve que enterrer Hakimi, je trouve que c'est un peu dur, Simon.
Bah, ils sont en train de couler tous les deux le bateau dans lequel ils ensemble. Mais vous savez très bien comment ça se passe. Je suis d'accord avec toi, Pascal. On n'est jamais à l'abri de votes un petit peu farfelus dans les éditions précédentes. On a eu des mauvaises surprises, mais là encore, Yamal, ok, tout ce qu'il fait, c'est ultra spectaculaire. C'est vrai que ça attire un petit peu plus l'attention des médias. Et en plus, lui, depuis le début de sa carrière, il a tout misé sur sa communication. Moi, je trouve que justement, c'est une option de plus, une corde de plus à l'arc de Dembélé. C'est cette espèce de sobriété qui s'est dégagée. Le changement dans son body language, c'était un joueur de cirque, Dembélé. C'était un mec qui dribblait, qui faisait des highlights, mais qui finissait pas, qui ne faisait pas gagner son équipe. La transformation, on voit un félin, il est courbé sur lui-même, il attend que le ballon sorte des pieds du gardien. Je veux dire, il n'y a plus les dribbles, mais il y a des buts, il y a des passes, il y a un joueur ultra collectif, un joueur ultra décisif. Et on a été les premiers ici à s'interroger sur la valeur de cette compétition, cette Coupe du Monde des clubs. Il faut bien admettre que depuis les matchs à élimination directe, face à une grosse équipe, du Bayern, ça commence à ressembler à
vous
du foot de haut niveau. Je l'admets, Pascal, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je ne demandais qu'à être convaincu, puisqu'on avait admis en début de compétition que quoi qu'il arrive, on allait regarder. Parce qu'on est des amoureux de ballon et qu'on ne peut pas s'empêcher. Tu nous mets un PSG Real, un PSG Bayern. Et force est de constater qu'il s'est montré une nouvelle fois décisif. Ce n'est pas un but, ce n'est pas le dernier but d'un 10-0 contre les amateurs de Auckland. Il a été décisif. Yamal, il n'est pas là. Le Barça ne dispute pas cette compétition. Et pour un Vitinha que moi je mettais numéro 1 dans la course au Ballon d'Or, parce que si on l'a donné à Rodri il y a 2 ans avec Manchester City, je pense que Vitinha le méritait, parce qu'on ne parle même pas de ce qu'il a fait avec l'équipe nationale. Bon, là,
il a gagné la Ligue des Nations.
Quand on se met dans le logiciel des gens qui votent, et d'ailleurs nos confrères du Parisien, je crois qu'ils ont interrogé une douzaine de journalistes, il y en a 7 sur 12 qui donnent Dembélé ultra favori.
Dembélé en tête pour 7 des 12 journalistes qui ne sont pas forcément des journalistes qui sont les votants, hein, attention.
Non, certes, mais
il y a 100 journalistes.
Il y a une petite musique également dans la presse espagnole, qu'elle soit madridiste, mais également catalane, qui remarque que ce que fait Dembélé est absolument prodigieux. Donc, je ne dis pas qu'il le mérite incontestablement plus que les autres. Mais je pense que désormais c'est plié. Je pense que aux yeux du monde entier,
mérite plus que
c'est
les
terminé.
Autres, parce que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Même si encore une fois, Hakimi pour moi rentre dans ce débat. Mais on n'est pas dans du rationnel pour le Ballon d'Or.
Fabian Ruiz peut rentrer dans ce débat.
Ruiz aussi, évidemment.
Donnarumma peut rentrer dans ce débat également.
Et Doué aurait pu s'il avait fait une saison pleine, comme s'il avait fait ce qu'il fait depuis 3-4 mois toute la saison.
Le PSG annoncé, c'est Dembélé. Même le PSG s'est positionné par rapport à ça. Et donc moi, je ne chanterais pas de dire, je trouve que le meilleur joueur de la meilleure équipe le mérite. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Sauf que ce vote du Ballon d'Or, de ce que je comprends, il n'est pas rationnel en fait. Il n'est pas rationnel parce qu'il y a des gens qui font du lobbying, il y a des journalistes effectivement qui votent pour des gens de leur pays, qui sont un petit peu eus par le fait que ce soit des gens qui parlent espagnol aussi, donc que ça peut aussi rentrer en ligne de compte, le potentiel aussi peut rentrer en ligne de compte. Un Yamal qui a 17 ans, c'est un potentiel énorme, donc ça peut rentrer en ligne de compte. Évidemment, si aujourd'hui on demande qui mérite le Ballon d'Or, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est Dembélé, meilleur joueur, la meilleure équipe. Sauf que c'est beaucoup moins simple que ça, c'est quand même des votes, c'est quand même des gens qui viennent d'autres pays. Et c'est beaucoup
et vous
compliqué.
Parlez pas de la
c'est
dispersion cette... des voix aussi la... potentielle parce que vous parlez là de plein de joueurs du PSG.
Ouais, malgré tout les statistiques, parce que moi je considère que le nombre stratosphérique de buts, le volume de buts et de passes décisives ne doit pas être le facteur décisif. Mais justement, pour départager beaucoup de joueurs parisiens qui peuvent être dans la discussion, tu es obligé aussi de rajouter tu vois, la cerise sur le gâteau, à savoir, et en plus de son activité, parce qu'il y a les buts, il y a les passes, il y a le fait qu'il incarne, mine de rien... c'est la figure de proue de ce PSG post-Mbappé. Il a réussi à hausser le curseur. Et il y a tout le reste, encore une fois, c'est un mec qu'on disait dilettante, pas concerné, pas travailleur. Jamais on a vu un attaquant.
C'est comme que tu balayes un revers de main.
Et donc il y a les stats d'un joueur d'une équipe qui aura peut-être gagné tous les trophées possibles cette saison, qui aura battu le Bayern, qui aura battu aussi le Real.
Il y a des défenseurs qui marquent des buts, qui sont importants, qui donnent autant d'énergie.
Il y a aussi l'impact.
Pascal, et après je prendrai Christelle qui est avec nous.
Il y a aussi l'impact sur le grand public. C'est pour cette raison qu'il faut attendre, à mon avis, le match de ce soir. Parce que si Paris gagne, ça sera filmé, ça sera pour un Parisien et ça sera pour Dembélé. Parce qu'ils seront champions d'Europe, ils auront gagné la Ligue des Champions et ils seront champions du monde des clubs. Ouais, ouais. Mais cela dit, n'oubliez pas qu'Yamal, il fait rêver le grand public, tous les gamins. Et ça, c'est à prendre aussi en compte. Ben, parce qu'il a un jeu tellement spécial,
aujourd'hui, Yamal,
tellement spécial qu'il est, il est tellement surprenant par sa manière de jouer, de répéter les efforts, de dribbler et d'être comment dire, inventif, que ça va compter aussi pour le vote si jamais le PSG, ce que je ne souhaite pas, venait à perdre ce soir.
Ah oui, tu penses vraiment que ça va avoir un impact? Alors c'est demain soir, déjà, Pascal.
Oui, demain soir, pardon.
Mais t'as hâte d'y être, on comprend bien. Mais tu penses que vraiment, là, même là, avec ce qu'ils ont fait quand même, le PSG, battre le Bayern, battre le Real.
Non, ça suffit là. Voilà. Franchement,
moi, je pense que Yamal peut être encore en course.
Ça ne va pas se décider sur une victoire ou pas demain contre Chelsea.
Alors à l'inverse, ça s'est décidé parce que Yamal ne fait pas cette compétition et parce que Dembélé vient juste d'apparaître parce qu'il était blessé au départ.
Mais quelle apparition.
Donc ça a quand même joué cette apparition à ce championnat du monde des clubs.
Alors Christelle est avec nous au 32-16 ce matin dans les grandes gueules du sport. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre pour parler de ce Ballon d'Or. Supportrice du PSG, Christelle, ou pas?
Ah oui.
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Donc j'imagine que ton cœur.
Supportrice du PSG à fond. Et là, je suis je suis sur un nuage, quoi. Je suis dans un rêve depuis qu'on a gagné la Ligue. Et là, le parcours de Paris pour tous les joueurs, il n'y a pas que Dembélé, mais le parcours de Paris sur cette Coupe du Monde des clubs, c'est un parcours de toute façon qui, quoi qu'il en soit, restera historique, puisque c'est la toute première déjà.
Et
donc
oui.
Déjà se retrouver ne serait-ce qu'en finale de cette toute nouvelle compétition, c'est quand même quelque chose d'assez magique, si je puis dire. Et forcément, quoi qu'il en soit, ça restera tout simplement dans l'histoire.
Ouais.
Maintenant, si on parle purement Ballon d'Or et Dembélé, pour moi, il n'y avait pas besoin de cette compétition pour que ce soit une évidence. Non pas parce que je suis supportrice de Paris et que je veux absolument
un
que
un peu Christelle quand même un peu.
Ah évidemment ça gâche en rien le plaisir. Mais moi je trouve que Dembélé il a une carrière exemplaire. On peut dire ce qu'on veut, c'est un joueur qui même si par moment on a pu dire qu'il avait un détachement, etc. Pour moi, c'est humainement déjà c'est quelqu'un qui a jamais fait de vague. C'est quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler entre guillemets en négatif par rapport à sa vie personnelle, etc. Et le Ballon d'Or ne tient pas forcément compte que des critères sportifs, des résultats.
On voit que les débuts à Barcelone, c'était pas dingo quand même. Hein. On parlait de son entourage, on parlait de son appartement rempli de copains, de la PlayStation jusqu'à pas d'heure, les blessures à répétition. La presse espagnole, ils n'en reviennent pas. Ils ont l'impression que c'est pas le joueur que
il a grandi, évolué, il a mûri.
Mais c'est pour dire à Gretel que justement, à une époque, on a beaucoup parlé de son potentiel gâché. Oui, alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La transformation de l'homme et du joueur, elle compte aussi, je pense.
Alors, c'est vrai. Après, tous les joueurs, de toute façon, qui sont élevés à ce niveau, ont tous, à un moment donné, une casserole ou un truc qui joue pas forcément en leur faveur. Il y en a des plus graves, on va dire, que d'autres. Je veux dire, c'est pareil. On avait Neymar qui avait une hygiène de vie déplorable. On a Mbappé, maintenant, qui est au cœur de 36 polémiques financières avec Paris, machin, etc. Qui, en plus, a pas brillé les derniers temps par ses performances sportives. Hein, faut quand même l'avouer. Je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai beau être supportrice de Paris, de l'équipe de France et tout. Moi, Mbappé, à la fin, je pouvais plus. C'était plus possible. On avait presque l'impression qu'il jouait contre nous plutôt que de jouer avec nous. Donc, à un moment donné, bon, stop, quoi.
Bah, il n'a pas gagné le Ballon d'Or, hein, du coup, Neymar non plus.
Alors, il n'a pas gagné le Ballon d'Or et de toute façon, il y avait. Moi, je trouve qu'il y avait une vraie raison à ça, hein, effectivement. De toute façon, il y avait tout qui était contre lui pour gagner le Ballon d'Or et honnêtement, je pense que ça aurait été vraiment une grosse injustice.
Et donc, cette année, c'est Dembélé ton choix et ton vote, quoi, malgré les performances d'autres joueurs du PSG.
Et Hakimi, par exemple, qu'est-ce que tu penses, Christelle, d'Hakimi?
Alors, Hakimi, je trouve qu'il est formidable. En fait, Hakimi, moi, fait partie des joueurs que j'adore, justement, au contraire d'Mbappé. C'est des joueurs qui font des efforts à tous les niveaux du terrain. À tous les niveaux, ils sont là. Si l'équipe, elle est en difficulté, eh ben, ils défendent. S'il y a besoin d'attaquer, eh ben, ils attaquent. S'il y a une faiblesse au milieu, bon, ils essayent de compenser, mais malheureusement, quand il y a une faiblesse au milieu, souvent, ça nous est un peu fatal. Mais c'est des joueurs qui font les efforts. Et moi, à partir du moment où les joueurs font les efforts, je trouve qu'ils méritent de toute façon d'être récompensés. Donc moi, Hakimi, pourquoi pas? Maintenant, pourquoi mon choix, il irait plus vers Dembélé? Déjà parce que je suis française et qu'à un moment donné, bah, je trouve que même les médias, même les journalistes, je trouve qu'ils se positionnent jamais assez chauvinement avec nos joueurs. On est toujours en train de d'encenser les joueurs espagnols, etc. Moi, aujourd'hui, Yamal, il n'y a pas de débat. C'est un jeune joueur, il a encore tout à prouver. Certes, il est très bon, mais on sait aussi que les joueurs très bons peuvent, du jour au lendemain, comme Mbappé, devenir pas mauvais, mais très moyen. Donc moi, j'attends. Je trouve que pour avoir un Ballon d'Or, il faut montrer qu'on est capable de durer.
Mbappé, et je trouve que c'est un costard. Hein.
On va pas revenir sur Mbappé. Bon, là, on parle du Ballon d'Or. Je pense qu'il l'aura pas cette année.
Non, je compare, mais pas. Voilà, c'est juste pour donner une image par rapport à Yamal.
C'est la supportrice du PSG qui parle.
Ouais, mais on pourrait. Non, parce qu'en fait, on pourrait comparer un peu Yamal à Mbappé. Mmh. Je veux dire, c'est des joueurs qui ont eu un démarrage extraordinaire quand ils sont jeunes. J'espère pour Yamal que ça durera. Il y a aucun souci. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore trop léger pour pouvoir prétendre au Ballon d'Or. Je pense qu'il faut le mériter, il faut faire ses preuves. Et je trouve que Dembélé, sur sa carrière, il les a faites. Il a aujourd'hui, il a gagné tout ce qu'il pouvait aujourd'hui. Il a gagné une Coupe du Monde avec l'équipe de France. Ils ont été en plus de surcroît en finale encore sur la suivante. Là aujourd'hui, il a une Ligue des Champions. Pour moi, il est complet.
Vote Ousmane Dembélé, c'est bien on a bien compris. Hein, c'est peut-être toi d'ailleurs qui devrait voter parce que franchement, tu as tous les arguments pour. Merci beaucoup.
En plus,
je sais pas. Peut-être Christelle, t'es pas journaliste. Ah, on a...
Non.
Christelle,
je ne suis pas journaliste.
Merci en tout cas Christelle d'être passée sur RMC et n'hésite pas à revenir dans les grandes gueules du sport. Le bilan. Et le résultat, alors pas du Ballon d'Or, mais du vote sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Oui, la team oui s'est pliée, 61%, donc a gagné des pourcentages, a gagné des votants. Donc bravo Simon.
Merci François.
A gagné 1%.
Bah oui, mais il a gagné.
Oui, bravo. Bravo Fred, bravo Pascal. 1%.
Voilà. Pascal, tu veux pas changer d'avis?
Non. Okay, je vais pas changer d'avis. J'attends le match de demain.
Exactement. Dans un instant, on va revenir, mais juste avant, quand même, un détour par ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande-France, c'est du rugby. La deuxième période, eh bien, ça continue. Là, la valise se remplit petit à petit pour nos bleus, Clément Brossard.
Aïe. Le sixième essai à l'instant pour les Néo-Zélandais. Rico Ioane trouvé sur l'extérieur en bord de ligne de touche qui vient aplatir encore. coin, le sixième, puisque juste avant cela, eh bien, il y avait eu le cinquième essai de Will Jordan, l'arrière des Crusaders, le 41e essai en 43 sélections. C'est aussi preuve de la différence d'expérience entre ces deux blocs aujourd'hui. Ça va porter ce score à 41-10 en attendant la transformation à venir de Boden Barrett. La Nouvelle-Zélande a un autre visage bien différent de celui proposé par la semaine dernière. Les Néo-Z qui s'envolent vers un deuxième succès en autant de matchs test avant la troisième opposition. La semaine prochaine, il reste encore 18 minutes à jouer, mais c'est dur à Wellington pour les Bleus, 41-10.
10h31, vous restez avec nous sur RMC. La punchline GG de ce samedi, elle est signée Novak Djokovic après sa défaite en demi-finale de Wimbledon. Est-ce qu'il doit arrêter là, Djokovic, qui se dit usé par tant d'années sur le circuit? On en parle tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h37, vous écoutez les grandes gueules du sport. Pascal Duprat-Fladveil, Simon Dutin ce matin. Dans un instant, il y aura les grandes gueules contre-attaque qui vous ont proposé un débat sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, c'est ultra serré. Quand je vous ai dit que chaque vote comptait, 34% pour le débat proposé par Simon Dutin.
On est passé à 34.
Le licenciement de Horner, Verstappen va-t-il finalement rester? Et puis à égalité, 33%, Pascal Duprat et Fred Weiss. Pascal qui veut parler de l'Olympique Lyonnais, Fred Weiss qui veut nous raconter l'histoire d'un joueur de basket avec 28 injections à la main pour Jalen Williams. Allez voter, c'est très important le résultat. Dans un quart d'heure. Mais juste avant, c'est l'heure de la punchline GG signée Novak Djokovic après sa défaite en demi-finale à Wimbledon.
RMC, la punchline GG.
Je ne pense pas que ce soit de la malchance. C'est simplement l'âge, l'usure du corps. J'ai beau en prendre soin, la réalité me frappe en ce moment et depuis maintenant un an et demi, comme jamais auparavant pour être honnête. C'est difficile pour moi de l'accepter parce que j'ai l'impression que lorsque je suis frais, lorsque je suis en forme, je peux encore jouer du très bon tennis.
Novak Djokovic, après sa défaite en 3-7 face à Yannick Sinner en demi-finale du tournoi de Wimbledon hier, il était un petit peu diminué, il s'était blessé notamment en quart de finale, et évidemment il parle de l'usure de son corps, vous l'avez entendu. Est-ce que Djokovic doit s'arrêter là? Oui ou non, Simon Dutin?
S'arrêter là, c'est là, demain, plus de tennis?
Oui, enfin bon. Voilà, ce que je veux dire, là, maintenant, voilà, c'est l'heure de la retraite à Sony.
Il va être temps d'y penser, oui.
Fred Weiss.
Oui.
Pascal Duprat.
Oh, que non.
Avant de vous entendre, on va accueillir Eric Salio dans les grandes gueules du sport. Salut, Eric.
Salut, les grandes gueules.
Salut, Eric.
Alors, tu as commenté ce match de Djokovic face à Sinner. Tu étais aussi pour RMC en conférence de presse. Le Serbe qui s'est pris une claque hier, qui s'est montré résigné. Il sait qu'un 25e titre du Grand Chelem est désormais inaccessible pour ses vieilles jambes.
Oui, c'est vrai que la salle de presse était comble hein, lorsqu'il s'est présenté une demi-heure après sa défaite. Il n'a pas cherché d'excuses hein, et tout de suite, il a cerné l'origine de ses pépins à répétition.
C'est simplement l'âge, l'usure du corps, la réalité me frappe en ce moment. Je pense que jouer au meilleur des 5 manches, en particulier cette année, ça a été un véritable combat pour moi sur le plan physique. Plus le tournoi dure, plus ma condition physique se dégrade. J'ai atteint les demi-finales de chaque chelem cette année, mais je dois jouer contre Sinner ou Alcaraz. Ces gars-là sont en forme, jeunes, affûtés. J'ai l'impression d'aborder le match avec le réservoir à moitié vide.
Après cette déclaration, la salle de presse a retenu son souffle, parce qu'on a cru que le Serbe allait annoncer ses adieux, mais il aime encore trop son sport.
Je n'ai pas joué mon dernier Wimbledon aujourd'hui. J'ai vraiment l'intention de revenir au moins une fois, si possible sur le centre-court.
Alors si Novak Djokovic a tiré un trait, on va dire, sur la quête du 25e majeur, comment va-t-il gérer la suite de sa carrière? C'est une vraie question.
Je vais probablement devoir tout revoir et voir avec mon équipe, avec ma famille, comment je veux établir ma programmation, où je veux atteindre mon pic de forme et comment je veux m'entraîner. Je ne sais pas ce que je peux faire différemment, pour être honnête, parce que le nombre d'heures que je consacre chaque jour à prendre soin de moi, j'aimerais défier tous ceux qui sont sur le circuit pour voir si quelqu'un prend soin de lui plus que moi. Malheureusement, je ne suis pas récompensé pour cela en ce moment avec les blessures dans la dernière ligne droite des Grands Chelems.
Travailler autant pour ne plus rien gagner, c'est un concept qui ne ressemble pas à Novak Djokovic.
Merci beaucoup Eric, tu vas rester avec nous parce que tu vas arbitrer ce débat. Est-ce que Djokovic doit s'arrêter là? Fred, tu as dit oui.
Oui, il doit s'arrêter là parce qu'on aime, enfin en tout cas personnellement j'aime Novak Djokovic. Personnellement j'ai pas envie qu'il souffre, j'ai pas envie qu'après sa carrière il le regrette, j'ai pas envie de le voir diminuer, j'ai pas envie d'oublier la légende qu'il a été en faisant des matchs, le match de trop. J'ai toujours cette envie dans le tennis, ça arrive rarement hein, qu'il s'arrête au bon moment. Tu fais une demi-finale de Wimbledon, bon tu te fais un peu écraser
non,
par
les grands chelems,
mais tu fais une demi-finale de Wimbledon, c'est top, tu t'arrêtes tranquille, ton corps. En fait, à un moment, dans le sport de haut niveau, c'est pour ceux qui ont fait du sport de haut niveau, ils savent. À un moment, tu peux plus mentir à ton corps. À un moment, ton corps te dit merci, ça suffit. Et là, de ce qu'il est en train de nous expliquer, Djokovic, c'est son corps qui est en train de lui dire. Il n'a jamais vécu ça. Il est dans une grande difficulté. Il a mal. Arrête-toi, laisse-nous la belle image et toi, laisse-toi la possibilité d'être
en bonne
santé.
Tu penses que son image elle sera écornée sous prétexte qu'il continuerait une année?
Alors honnêtement,
sous prétexte qu'il s'arrêterait chaque fois, écornée, chaque fois en demi-finale des grands chelems.
Légèrement égratigné, oui. Et je trouve que ça ne sert à rien. Pourquoi tu veux t'infliger cette douleur? Pourquoi tu veux t'infliger ça?
Il aime son sport.
Oui, mais sauf qu'il souffre. Pascal, il le dit lui-même, il souffre à un moment dans le sport de niveau. Et je vais passer pour savoir, tu ne peux pas te mentir.
Je vais donner mon sentiment. Hier, pour la première fois, j'adore Djokovic. Hier, pour la première fois, pendant le match, je me suis dit, comme l'a dit Eric tout à l'heure, je me suis dit, à la fin du match, il me paraissait tellement résigné pendant le match, à part le troisième set qu'il a bien démarré, je me suis dit, il va annoncer qu'il arrête. Et heureusement, parce qu'ensuite, en conf de presse, il a d'abord parlé de ses problèmes, il a dit qu'il comprenait qu'aujourd'hui, c'était physiquement qu'il lâchait. Et ensuite, je parle sous couvert d'Eric, il a dit, j'espère refaire un dernier Wimbledon. Un joueur de ce niveau-là...
Je reviendrai même, hein, il a dit, oui, même pas oui, j'espère, je reviendrai
j'espère
au moins
en
une
refaire
fois.
Encore un, ouais, encore une fois. Donc moi, ce que j'espère, par rapport à son rang, alors, j'ai toujours pas abandonné en tant que grand supporter de Djoko qui gagne un 25e titre, je l'espère, si un jour les planètes sont alignées, si Alcaraz ou Sinner se font étendre lors d'un tournoi du Grand Chelem très tôt dans la compétition, voilà, j'espère qu'il gagnera un 25e Grand Chelem, mais un joueur comme ça, j'aimerais qu'il dise aujourd'hui, mais je suis qui pour dire ça, j'aimerais qu'il dise Djoko, j'arrête en 2026 à la fin de la saison. Et puis comme ça qu'on puisse le voir une dernière tournée d'adieu pour un joueur
c'est
tout ce que j'espère. Mais après l'argument que tu développes,
moins performant, c'est triste.
La résilience chez Djoko, elle est permanente depuis qu'il est jeune.
Mais justement,
c'est un garçon qui a su s'entraîner.
Il a le droit au repos.
Mais tu te rends compte qu'hier, il a perdu en demi-finale d'un grand chelem.
Il a perdu en demi-finale. Et donc, il n'a pas perdu au premier tour. Parce que les deux devant sont bien, bien
meilleurs. Il n'a pas perdu au premier tour.
Pascal, c'est un joueur hors norme. Dont j'ai jamais été le plus grand fan, mais bon, il a fixé des standards plus élevés. Tu as raison de rappeler, il est en demi de tous les grands chelems. Pour un joueur top 10, c'est formidable. Pour celui qui est dans le débat du GOAT, du plus grand joueur de l'histoire, qui a le record de victoire en grand chelem, c'est plus satisfaisant. Moi, je le voyais bien gagner Wimbledon cette année. On en parlait avec Max qui me rappelait que bon, Sinner, il est passé pas loin de se faire vider par Dimitrov.
Ah oui, oui.
Je pense qu'un Djokovic avait de quoi sortir Dimitrov, qui n'aurait peut-être même pas battu Shelton au tour d'après. C'est pas la question. Je pense que Djoko, avec ses ambitions, on a tous été frappés quand même par la transparence de ses propos hier. Je veux dire, il se l'avouait à lui-même en même temps qu'il nous l'avouait. Il est plus invité contre ces deux monstres-là. Donc, si on parle vraiment d'une tournée d'adieu, là, ça va parler à Big Fred. One Last Dance à la Kobe Bryant.
Je pense que pour ses fans,
pour les gens qui voudront voir jouer Djoko une dernière fois, il faut que la saison prochaine, ils choisissent ces tournois, ils jouent les quatre grands chelems, je sais pas, une 5 ou 6 Mastermind. Et puis terminé, il va jouer chez lui un petit coup et voilà. Mais une tournée d'adieu, c'est entendu que voilà, c'est pour le plaisir, pour partager avec les fans et plus pour viser la victoire. Je pense que pour qu'ils l'admettent comme ça, Je pense que c'est
un grand champion soit est capable de dire je fais une tournée d'adieu et je ne joue plus rien. Donc je pense que Djoko
il aura toujours les matchs pour les gagner. Bien ouais, entendu.
Il vient pour gagner, il se rend compte qu'il ne peut plus gagner.
Fred n'a pas envie de le voir souffrir. On l'a bien compris.
Voilà, moi c'est d'une tristesse
absolue. Et notamment perdre peut-être dans les premiers tours.
Évidemment, c'est un énorme champion, c'est un dieu vivant du tennis. Arrête-toi maintenant.
Mais oui, c'est pour ça qu'il doit s'arrêter,
Eric,
parce qu'on n'a pas envie de le voir sortir.
Qui le connaît très bien, Eric Salio, puisque bon, tu l'as suivi toute sa carrière. Novak Djokovic, à ton avis, le connaissant, il a envie de quoi maintenant?
Bah, écoutez, moi je me pose cette question. On a suivi l'histoire du sport, on a suivi les adieux de Federer, il avait choisi ses adieux, donc la fameuse Lever Cup à Londres. Les adieux de Nadal à Roland, c'était écrit. Et pourquoi ce serait pas à Wimbledon les adieux de Djokovic? Parce que ça va pas être en Serbie, non, il faut que ce soit international.
Ce sera à Wimbledon, Eric.
Il faut qu'il y ait du cachet. Et s'il dit qu'il veut rejouer au moins sur le central, le center court, c'est peut-être parce qu'il veut finir là-dessus, justement. Voilà. Moi, je pense que ça peut être l'idée. Parce que maintenant, il va y avoir un conseil de famille avec sa femme, avec ses enfants, parce que bon, là, je vois professionnel.
T'es pas invité, toi, au conseil de famille, non? Donc,
est-ce qu'il finirait pas à Wimbledon sur le court où il a été sacré numéro 1 mondial pour la première fois?
Oui, bah ça serait beau, ça serait magnifique quand même de terminer effectivement à Wimbledon.
Et c'est ce qui va arriver dans un an.
Voilà. Ouais. Bon, d'ici là, peut-être qu'il gagnera d'autres tournois pour la 25e titre du Grand Chelem, on l'a bien compris. Même lui semble douter, vu qu'il y a des monstres désormais, Alcaraz, Sinner. On reparlera d'ailleurs, Eric, de cette finale demain, très attendue entre Alcaraz et Sinner. Et puis cet après-midi, il y a la finale dames dont on parlera également. Swiatek face à Nassimova, l'américaine, une finale inattendue entre deux joueuses qui n'avaient pas réussi à passer les quarts de finale jusque-là de Wimbledon. On aura l'occasion d'y revenir, ça sera à 17h cet après-midi, à suivre sur RMC bien sûr. Merci beaucoup Eric, à bientôt. Clément Brossard, Nouvelle-Zélande France, comment ça se passe pour nos Bleus? Est-ce qu'ils ont repris un petit peu de couleur?
Un tout petit peu, il reste 2 minutes 30 dans cette partie et l'équipe de France vient de marquer un deuxième essai. 6 essais à 2, ce sera trop compliqué, mais tout de même Joshua Brennan, le milieu numéro 4 de Toulouse notamment dans la cage, qui inscrit son premier essai pour sa première sélection. Ça va redonner un tout petit peu d'espoir aux Bleus, mais déjà en quête du troisième match la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, ce sera trop compliqué. 43-15 pour les Blacks. Il reste 1 minute 20 à jouer. Transformation à venir pour Astoy. Elle va certainement passer. Elle est simple pour lui. C'est fait. 43-17.
A tout de suite, Clément, pour la fin de cette rencontre. Vous restez avec nous, les grandes gueules qui reviennent dans un instant avec les GG contre-attaque. C'est ultra serré, les amis. Il vous reste seulement quelques secondes pour voter et pour tout faire basculer. Je ne vous en dis pas plus. Allez sur le compte X des grandes gueules du sport. On vient tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h50 sur RMC, les grandes gueules du sport continuent jusqu'à midi. Pascal Duprat, Fred Veil, Simon Dutin ce matin. Dans un instant, on retrouvera Jérôme Pinault sur les routes du Tour de France pour un débat autour des chutes des coureurs. À qui la faute? Faut-il incriminer les coureurs? On en débat dans un instant. C'est terminé au rugby, Nouvelle-Zélande, France. Clément Brossard.
Les Bleus ont fait moins belle impression que la semaine dernière et la défaite 31-27 à Dudlin. Cette fois, c'est une défaite écrasante, 43-17. 6 essais à 2 pour les All Blacks avant le troisième match. Donc ce sera la semaine prochaine à Hamilton, avec les retours probables des Fischer, Gaillard et Ficou, qui avaient fait une belle impression lors de la première rencontre. Déficit d'expérience à coup sûr, battu dans l'alignement, battu à la conquête. C'était trop compliqué pour les Bleus aujourd'hui et qu'ils s'inclinent 43-17.
Merci Clément. Évidemment, on retrouvera l'équipe de France la semaine prochaine en direct dans les grandes gueules du sport pour un nouveau match contre la Nouvelle-Zélande.
On espère que les Bleus ne vont pas broyer du noir. Du coup,
on l'a jamais fait celle-ci. Tiens, ça pourrait être intéressant. Mais d'abord, vous le savez, les grandes gueules qui prennent les commandes de l'émission, elles vous ont proposé un débat. C'est vous qui avez choisi votre débat préféré. On est sur des débats les plus serrés de l'histoire et ça se joue au millième près, voilà, comme à la photo finish. Troisième place pour Fred Weiss, 32%.
Pas mal, Fred.
Et quasiment à égalité, mais c'est la victoire pour Simon Dutin, avec 34,3% devant Pascal Duprat, 33,6%. Bravo Simon pour ton débat.
Bravo
sur
Simon.
La Formule 1.
Merci, j'ai cassé sur la ligne tel Colin Jackson des grandes années.
Cassage sur la ligne. Tu voulais nous parler donc de ce licenciement de Christian Horner de Red Bull. Et tu te poses la question, pourquoi ce licenciement, c'est ça?
L'ancien patron tout puissant de Red Bull, qui a été donc remercié par l'écurie, qu'il a quand même contribué à faire gagner 4 titres de champion du monde pour Verstappen, il y en avait eu 4 pour Vettel. Et la question, c'est de savoir, alors que les rumeurs d'un possible départ, d'une possible envie de Max Verstappen de quitter son écurie historique, bon, apparaissent ces dernières semaines. Voilà, le timing interroge un petit peu. Est-ce que du côté de la direction de Red Bull, on a choisi de se séparer de Horner parce que on a fait un constat d'échec, c'est-à-dire que même si c'est pas encore officiel, Verstappen leur aurait annoncé, écoutez les gars, je m'en vais. Du coup, Horner qui n'aurait pas su le retenir, puni, licencié, faute. Ou au contraire, pour tenter de retenir Max Verstappen, la dernière mesure, la tentative désespérée. Allez, on vire Horner parce que on sait que même si ça n'a pas été rendu toujours public, on sait qu'il y a quand même eu des différends entre les deux. Verstappen, il avait critiqué les problèmes de fiabilité moteur, d'abord de Renault, ensuite de Honda. Ça n'avait pas plu à Horner. On sait qu'il s'était un petit peu pris la tête. On sait que le père de Max Verstappen, ouais, Charles Verstappen, a mis quelques mines. Christian Horner, il était dans la sauce. Là, il était impliqué dans une affaire d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel sur une employée de chez Red Bull. On sait que chez les Verstappen, on n'a pas beaucoup aimé l'image que ça renvoyait de l'équipe. Il y a eu la communication de Horner qui avait été très agressif contre Mercedes et Lewis Hamilton notamment. On sait que ça n'a pas beaucoup plu au papa Verstappen, qui est très influent dans la conduite de la carrière de son fils. Donc c'est la question que je me pose. En fait, j'en appelle à l'intuition parce qu'on n'est pas dans les coulisses. Est-ce que vous pensez que c'est le signe que Verstappen va quitter Red Bull, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que c'est le signe qu'on pense qu'une telle mesure peut retenir Max Verstappen? Voilà.
On aura la réponse évidemment en fin de saison. Fred, t'as une intuition justement, puisqu'il en appelle à ton intuition, oui, alors, de philosophe.
Moi personnellement, je me pose la question de savoir si c'était le moment où on me pose la question si je m'en fous pas.
D'accord, ça me merci. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va donner la parole à Pascal sur ce débat.
Non, mais moi, je m'en fous pas, mais j'ai lu que, alors c'est pas toujours vrai ce qu'on lit, mais j'ai lu que Verstappen était hors du coup, c'est-à-dire qu'il a pas eu d'influence sur ce coup-là. Voilà.
Donc, il va pas nous dire le contraire, je pense, Pascal. Il n'aurait pas intérêt.
Je mise sur un Verstappen qui reste chez Red Bull. Voilà.
D'accord, ok.
Je le vois pas partir.
Bon, en tout cas, c'est un Français qui a remplacé Christian Horner, Laurent Méquies, que l'on suivra, qui a fait ses gammes aussi chez Ferrari, et c'est donc un Français à la tête de Red Bull.
François, quelque chose ça t'intéresse quand même. Non, ce qui est beaucoup plus important, c'est que j'avais gagné en fait sur le débat, mais vous avez voulu prendre le moment où c'était Simon, et peu importe, vous préférez Simon.
Ah, ça a changé entre temps parce que tu as fait appel à tes amis pour voter. Voilà,
c'est avant tout. L'heure, c'est pas l'heure.
C'est terminé.
C'est
terminé depuis 10 minutes. Les votes sont clos. On l'a dit, ça.
On s'en fout, Simon.
Non, attention, il y a un huissier de justice en régie. C'est très sérieux, là, les grandes gueules qu'on t'attaque. C'est pas quand il y a grand Jean-Christophe
si
Drouet,
c'est très très sérieux.
Oui, c'est Maxime, mal, exactement. Hein. Il est également huissier dans la vie. Voilà, c'est comme ça. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant, évidemment, les grandes gueules qui reviennent à 11h avec notre débat sur le Tour de France, sur les chutes à répétition. Est-ce que c'est de la faute des coureurs? Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. On sera avec Jérôme Pinault. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.